Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là aujourd'hui avec notre directrice de la rédaction, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Jérémy.
Alors Elisabeth, si j'ai bien compris, un nouveau numéro de Causeur vient de paraître. De quoi parle-t-il?
Eh bien, la une de ce numéro, comme vous le savez bien, cher Jérémy, puisque vous y avez grandement contribué, c'est Jordan Bardella. On a fait une grande interview donc du patron du Rassemblement National, qui est en tête dans tous les sondages pour les européennes. Et donc, ça nous a semblé intéressant. Et donc, on a mis comme titre « Quoi ma gueule ?» Parce que il y a un petit côté, d'abord, il y a un petit côté Johnny. C'est un peu la France de Johnny qui aime Bardella, je dirais.
Oui.
Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'appelait l'idole des jeunes, parce que, mais c'est factuel, en réalité, c'est que c'est le premier parti politique chez les jeunes, le RN, et lui en particulier.
Et qu'est-ce qu'il nous a dit dans cet entretien? Qu'est-ce qu'on doit retenir?
Vous savez, il est d'une prudence de serpent. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est sa plus grande faiblesse. C'est-à-dire, il a tellement peur de l'échec que dans le fond, il prend pas beaucoup de risques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, d'abord, c'est quelqu'un de très raisonnable. C'est pas du tout un foufou. Alors, justement, on pourrait se demander s'il lui manque pas cette petite folie qu'il faut pour se croire capable de gouverner la France, mais que nous a-t-il dit? Dans le fond, comme tous les gens de droite aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il lorgne tous les gens de droite sur le même espace politique qui est en gros celui du RPR, si vous voulez. C'est ça la terre promise de la droite aujourd'hui, c'est le RPR de la grande époque, quand il y avait ce que feu William Abitbol appelait la droite des garagistes. Voilà. Je pense que ça intéressera les lecteurs, parce qu'on découvre un peu plus qui est Bardella, et on découvre aussi d'ailleurs ses manques et ses carences, mais je pense que c'est un bon entretien. Et par ailleurs, on a aussi voulu demander à tous les gens de droite d'éclaircir leur position sur l'Ukraine. Et d'ailleurs, il faut bien dire que là-dessus, il n'y a pas de grande différence entre les uns et les autres. Et d'ailleurs, il y a une différence entre personnes, à part Macron et les macronistes. Si vous voulez, tout le monde est sur la même ligne, plus ou moins. Alors avec des, quand même, il y en a qui ont l'air terrifiés à l'idée de faire de la peine à Poutine. D'autres qui disent qu'il faut soutenir l'Ukraine, mais excluent totalement l'idée de soldats qui a été d'envoi de troupes qui a été avancée par Macron. Et dans le fond, j'ai été étonnée parce que je pensais que ce serait un sujet plus clivant entre eux, et non. On a que ce soit Marion Maréchal pour Reconquête, François-Xavier Bellamy pour LR ou Bardella. Sur l'Ukraine, ils disent à peu près tous la même chose. Bardella est plus atlantiste que ce que je pensais, en fait. Voilà, ça c'est vrai. Ça m'a assez étonné.
Et on parle aussi de cette accusation portée contre Israël d'avoir organisé une famine à Gaza.
Alors là, je vous recommande de lire la très bonne enquête de Gil Mikhaeli, même si, évidemment, il répond pas aux questions posées par des événements plus récents, par définition, mais il explique pourquoi il y a des difficultés réelles d'approvisionnement et probablement d'ailleurs des poches de famine, en tous les cas dans certains endroits. Il explique pourquoi, c'est évidemment pas parce que les Israéliens cherchent à affamer les Palestiniens et à les faire mourir de faim. C'est parce qu'il n'y a plus d'autorité à Gaza. Il n'y a plus d'autorité pour assurer la sécurité et la distribution de l'approvisionnement. Voilà, donc, ça ne veut pas dire qu'Israël n'a aucune responsabilité dans la situation, en tant que puissance, non pas occupante vraiment, mais enfin c'est la puissance militaire aujourd'hui à Gaza. Donc oui, Israël a une responsabilité, mais ça répond quand même à une calomnie propagée à très haut niveau, au niveau de l'ONU, même de l'Union européenne. Non, Israël n'emploie pas l'arme de la famine. Cette accusation est vraiment dégueulasse. Et Gil Mikhaeli lui fait le sort qu'il convient.
Et nous revenons sur ces accusations de viol portées contre Depardieu et Polanski, et que beaucoup dans les médias utilise en quelque sorte, au mépris du principe de la présomption d'innocence, pour donner un nouvel élan en quelque sorte au mouvement MeToo.
Alors là, dans notre numéro, il est plutôt question de Polanski, au mépris pas seulement de la présomption d'innocence, au mépris de toute justice, au mépris de toute règle, au mépris de toutes les formes de la justice. Et c'est bien d'ailleurs le problème de MeToo, c'est un mouvement qui prétend faire advenir la justice en s'asseyant sur toutes les formes et toutes les contraintes de la justice. Donc évidemment, ça ne marche pas, c'est devenu un mouvement totalement totalitaire, et je pèse mes mots. Qui fait des procès staliniens, qui se fout complètement de la réalité des dossiers. Le cas de Polanski est particulièrement intéressant, puisque tout le monde raconte n'importe quoi. Et donc là, il y a deux articles qui font un peu suite au procès en diffamation qui a eu lieu à Paris contre Roman Polanski. Donc la fille qu'il a accusée de viol il y a une... je crois que c'était il y a une quinzaine d'années, elle a porté ses accusations. La fille qu'il a accusée de viol l'accuse de diffamation parce qu'il s'est défendu. Ce serait presque cocasse si c'était pas quand même, si vous voulez, une façon aussi de pourrir la vie et de pourrir ses dernières années. Donc il y a deux articles, celui de Yanis Eziadi qui a été... très heureux que l'avocate de Polanski parle d'art, et voilà, il explique que oui, la question, on a le droit de parler d'art et de poser la question de l'art, y compris pour des gens accusés de violences sexuelles, ils peuvent quand même être considérés comme de grands artistes et ça n'a pas aucune importance, même si ça ne veut pas dire que ça les excuse, bien sûr. Et il y a votre article, hein, puisque vous avez rencontré un des personnages absolument savoureux du procès en diffamation, un journaliste anglais, mais qui a vécu longtemps aux États-Unis, qui s'appelle Stuart Lewis. Et alors là, j'envoie les lecteurs, je les invite à se ruer sur votre article, cher Jérémy, je n'en dirai pas plus. Ils vont pas tout avoir gratos, non?
Non, pas du tout. Eh bien, merci beaucoup, Elisabeth, et merci aussi pour nous mettre en appétit, en quelque sorte.
Très bien, c'est l'heure en plus. Merci à vous.
Je viens d'être rejoint par Jonathan Sixou, qui est en charge des pages culture de Causeur. Jonathan, quelle splendeur, quelle délice nous réservent les pages culture de Causeur ce mois-ci?
Vous avez trouvé les termes parfaitement justes, Jérémy, splendeur et délice, et également grain de sable dans nos souliers tout de même, avec un très beau dossier qui a été coordonné par Georges Yarré sur le wokisme dans l'art. Georges nous parle par exemple de cette tendance lourde qui voit dans le monde entier, c'est pas uniquement en France, mais c'est toute la planète woke qui est concernée, et tous nos musées, nos plus grands musées, les plus grandes institutions occidentales sont sous l'emprise de quoi ? Du néo-féminisme. Et cette néo-doctrine, désormais, se doit d'imposer qui ? Se doit d'imposer des femmes. Des femmes, non pas forcément pour leur talent, mais parce qu'elles sont femmes, et parce que, ça ne vous a pas échappé, elles ont été libérées. Et donc, désormais, elles s'exposent dans le monde entier. Ce sont des performeuses, des peintres, ou tout simplement des femmes, et en tant que telles, et en ce titre-là, elles ont le droit d'avoir les plus grandes cimaises de New York à Barcelone. Et Georges Yarré signe une très belle enquête sur deux, trois continents même, et qui se voit complétée par une très belle tribune, très inspirée, je dirais, qui prend un peu de hauteur avec toutes ces performances qui frisent le canular, finalement. C'est Jean Clair, de l'Académie française, qui signe une très belle tribune pour la défense de l'art, un retour à l'art qui doit justement ne pas être ni soumis aux diktats de l'argent, ni aux diktats du temps, donc pas a priori, ni aux diktats de ce qui est contemporain, non à l'art contemporain en tant que tel, nous dit-il, pour arriver à un art de la transcendance et du sacré. Dans ce même dossier, Pierre Lamalati tacle au passage Laure Adler, qui s'est fait une spécialité depuis plusieurs années, de publier des biographies de femmes artistes. Mais voilà où le bât blesse, nous souligne Pierre Lamalati, c'est que ces livres accumulent les clichés victimaires et puis surtout restent dans les clous hyper balisés d'une histoire de l'art archi-convenu. Et notre ami Lamalati nous cite quelques noms de femmes qui mériteraient d'avoir davantage de public, d'écho et de publicité. Un autre de nos amis et que nos lecteurs et auditeurs connaissent bien dans Causeur, c'est Yanis Eziadi. Yanis qui publie ce mois-ci un livre, c'est une, pourrait-on dire, une déclaration d'amour à la corrida. On a souvent eu l'occasion de lire ces très belles enquêtes, ces belles interviews aussi concernant cette légende de sang et d'or, et où la mort rôde partout, et c'est la grandeur du spectacle, l'angoisse et la splendeur du spectacle qui transcende tout cela. Yanis Eziadi, qui publie chez Fayard, Minotaure, voyage au cœur de la corrida, et nous sommes très heureux de pouvoir laisser nos pages à Jean-Louis Burga, qui a été le premier dans le temps à diffuser des corridas sur Canal+, quand il était l'un des co-directeurs de la chaîne également. Nous devions aussi, mais c'est un plaisir que de le faire, de parler de Michel Onfray, puisque Michel Onfray publie deux livres, et non des moindres, Théorie de Jésus, biographie d'une idée. Michel Onfray estime que Jésus-Christ n'a pas existé et que c'est une construction. Et dans un autre temps, dans un autre livre, il publie, toujours chez Bouquin, Patience dans les ruines. Frédéric Magellan signe un très bel article, encore une fois, ce mois-ci, sur une œuvre très intéressante, et le mot n'est pas employé avec légèreté, puisque Michel Onfray se pose réellement de vraies questions et pose des questions, finalement, nous pose des questions en miroir. Notre chronique, aussi un mot sur notre chronique mensuelle, La boîte du bouquiniste, qui rencontre toujours un succès mois après mois, j'en suis très content, et c'est Alain Pocard qui avec un plaisir non fin, nous parle de Pierre Gripari. Pierre Gripari, vous savez, c'est l'auteur des contes de la rue Broca, La sorcière du placard à balai, etc. Et Pierre Gripari, en 1983, avait publié un livre, Patrouille du conte, dans lequel, eh bien, c'est saisissant, et c'est ce que nous raconte Pocard, eh bien, il avait totalement imaginé le wokisme, et vous savez ce que c'est, sensitivity riders, aujourd'hui, qui sont censés opérer des coupes, etc., et dans Patrouille du conte, Gripari imagine comme ça une société où les enfants ne sont plus poursuivis par des loups, et les loups ne mangent plus les grands-mères, etc. Un détour encore une minute, si vous me le permettez, Jérémy, pour vous parler de Maurice Renoma. Maurice Renoma, on connaît la marque, la maison de couture, c'est un styliste qui a su au fil des décennies mélanger un style chic, mais un style décalé. Et puis surtout, Renoma, c'est un homme qui... du haut de ses 83 ans, ne se refuse rien. Il a une boutique, il a une galerie, il est photographe, il fait des installations, il expose également des artistes dans son café-galerie de l'avenue Georges V. Et il a, depuis plusieurs années, une mascotte qui est un poisson rouge. Et ce poisson rouge, c'est soit une photo, soit un poisson en plastique, enfin, ça prend toutes les formes qu'il souhaite. Et ce poisson s'expose jusqu'au 3 mai à l'Aquarium de Paris. C'est une exposition particulièrement amusante, et pour ceux qui ne connaissent pas l'Aquarium de Paris, il faut voir cet endroit, c'est sous les jardins du Trocadéro, et ça vaut le détour. On parle de poissons, ben restons-y pour conclure, puisque le restaurant mis à l'honneur ce mois-ci dans Causeur est une institution parisienne. C'est l'un des plus discrets de Paris également, Le Duc, qui depuis les années 60 cuisine le poisson dans tous ses états. Chez Le Duc, le poisson est roi, si on peut dire. Et c'est les frères Minkeli qui ont révolutionné finalement la façon de manger du poisson. C'est eux, par exemple, qui ont eu l'idée de nous le servir saisi, juste saisi ou même cru, chose qui en 67 paraissait être une aberration.
Merci beaucoup, Jonathan, et merci à nos auditeurs. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.